Gloire au Seigneur. Voilà, on est heureux d'être ici avec mon épouse, notre petite fille. Heureux de revoir, de vous revoir et heureux de partager la parole de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions ouvrir ensemble le Saint-Livre sans tarder dans le livre du Deutéronome. Deutéronome chapitre 8, et nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 11. Je pense que c'est un texte que nous connaissons tous. Il est écrit « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Amen. C'est un texte parlant. Et je pense que nous avons déjà eu à maintes reprises l'occasion de méditer sur ce texte, de rechercher ce que le Seigneur, au travers de la bouche de Moïse, a voulu dire au peuple d'Israël et par la même occasion à nous. Puisque vous le savez très bien, lorsque Dieu enseigne, l'Écriture est utile pour notre enseignement. C'est le discours de Moïse sur la dernière partie de sa vie. C'est un discours important où on n'a pas lu dans les versets, les chapitres précédents. Il va retracer l'histoire du peuple d'Israël, la main de Dieu, la main puissante de Dieu. Il va y avoir une répétition de la loi comme pour rappeler cela au peuple d'Israël. Et d'ailleurs, le Nouveau Testament s'y réfère environ 80 fois ce livre. C'est un livre important. C'est un livre qui marque un plan, un projet de Dieu pour son peuple et qui doit nous enseigner en tout cas ce matin, dont le thème principal, vous l'aurez compris, c'est l'obéissance et la désobéissance. C'est dans ce livre où à un moment donné, Dieu place son peuple devant ce choix. Il y a deux chemins, la vie et la mort. Choisis la vie, c'est des textes que vous connaissez très bien. Il y a quelque chose qui a frappé mon cœur et que le Seigneur a déposé en moi pour ce matin. C'est alors que Moïse parle, alors qu'ils sont en train d'envisager l'avenir du peuple, le pays qu'ils vont rentrer pour prendre possession, la promesse de Dieu qui va comme se matérialiser sous leurs yeux, il y a quand même cette invitation de Dieu à dire « mais attention ». Parce que avant de voir la promesse, avant de recevoir cette réalisation, il est important que vous puissiez prendre la parole, mais la mettre en pratique. Parce que de cela va découler la réelle bénédiction. Et c'est exprimé en trois termes. Et c'est sur ces trois termes que j'aimerais ce matin m'attarder avec vous. Il va y avoir, et je vous le relis, observez, mettez en pratique les commandements, on le sait, c'est l'obéissance que je vous prescris aujourd'hui. Le mot du Seigneur, ce sera toujours pour aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui que nous façonnons, préparons notre éternité, mais également nos lendemains au niveau spirituel. Afin que, et c'est toujours l'obéissance qui nous fait rentrer dans ce que le Seigneur a prévu pour nous, afin que vous viviez, que vous vous multipliez et que vous entriez en possession du pays. Et c'est là le titre de mon message, « Vivez, multipliez et possédez ». Je ne sais pas si on comprend vraiment la parole de Dieu lorsque nous la méditons, parce qu'à de nombreuses reprises, nous voyons le Seigneur qui nous invite à sa vie. Tu observeras, tu mettras en pratique pour vivre. On est d'accord, c'est ce que nous venons de lire, et on comprend que la véritable obéissance nous amènera toujours à la vie. Et la question que ce matin nous pouvons nous poser, après cette introduction, c'est de quelle vie il s'agit ? Qu'est-ce que la vie de Dieu ? Quelle est cette vie qu'il veut nous donner ? Parce que le contexte de ce texte, et d'ailleurs ce qui est présent tout au long de la parole de Dieu, nous invite à considérer la vie de Dieu. Ce qui nous amène à nous poser cette question, est-ce que ma vie est la vie que Dieu veut pour moi ? C'est quand même important parce que, on le voit, la vie sera toujours accompagnée par d'autres choses. Et nous, on a envie quelquefois de prendre des raccourcis spirituels, on a envie de gagner du temps sur certaines choses, on se dit que la vie c'est acquis, pas de problème, on est plutôt intéressé par la multiplication, par les possessions que Dieu veut nous donner, mais la parole de Dieu nous invite sans cesse à considérer de quelle vie est-ce que je vis aujourd'hui. Sous-entendu, est-ce que c'est la vie de Christ ? Et c'est ce qui a été présenté pendant ces chants, ce culte, la Sainte Cène, cette invitation à considérer ce qu'il y a en nous pour pouvoir, bien évidemment, recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Est-ce que je suis sauvé, mais que je veux continuer à faire ce qui me plaît ? Est-ce que je suis sauvé parce que j'avais peur de l'enfer, mais pas parce que j'ai la crainte de Dieu ? Est-ce que j'ai compris réellement l'invitation du Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il nous dit dans ses Écritures, de renoncer à ma vie pour gagner la vie ? Et toutes ces choses que nous partageons ce matin, je le crois, doivent nous amener dans une vie où nous manifestons Christ, et je le dirai comme ça, et c'est ce que nous allons voir, également pour porter du fruit, parce que c'est cela l'important. De ne pas, on pourrait faire référence à ces nombreux textes que Jésus va enseigner, de ne pas occuper un espace de terre inutilement. Est-ce que dans ma vie, je glorifie Jésus-Christ, ou je suis encore à me battre avec moi-même, à me démener avec ce que je pense, plutôt que ce que dit la parole de Dieu ? La vie véritable, frères et sœurs, vous le savez aussi bien que moi, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé. Et c'est cette connaissance, et c'est pour cela, je pense, que Dieu, au travers de Moïse, va dire à son peuple, avant de considérer ce que vous allez avoir, considérez la parole, considérez les commandements, considérez qu'il faut les mettre en pratique pour manifester la vie. Pour que vous puissiez, au travers de votre existence, glorifier le Seigneur Jésus-Christ, pour que le monde puisse voir Christ en nous. Et je pense que c'est ce qu'il doit y avoir dans notre cœur, dans notre vie, dans notre marche de tous les jours. La parole de Dieu a-t-elle toujours un accès dans notre cœur, dans notre vie ? Est-ce que j'ai toujours cette aptitude à me laisser enseigner par ce que Dieu dit ? À me laisser reprendre par ce que le Seigneur dit, toujours dans le but de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cela, frères et sœurs, qui va nous amener à la multiplication. Et on le voit dans ce texte, il y a un lien. On ne peut pas passer outre. Alors, peut-être parler de vie, on arrive à le comprendre, parce qu'on est sauvé. Et nous qui nous sommes levés ce matin pour la Sainte-Cène, on est béni de prendre ce repas. On est béni de considérer ce que Jésus a fait. On est béni de savoir qu'il va revenir nous chercher. Mais frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas uniquement ça. Frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est plus que venir le dimanche matin et être déconnecté le reste du temps de la semaine. La vie chrétienne, c'est une continuité. Et le Seigneur est en train de dire au peuple d'Israël, voilà ce qui vous attend. Mais vous, qu'est-ce que vous faites de la parole ? Voilà ce qui va se passer. Il va y avoir des temps d'abondance. Il va y avoir des temps de bénédiction. Vous n'avez pas connu ce genre de bénédiction, mais voilà ce qui va se passer. Et qu'en est-il de la parole au sein même de votre âme et de votre vie ? La multiplication, c'est un terme biblique, vous savez. On le retrouve beaucoup dans la parole de Dieu. Et en méditant sur ces choses, et c'est des textes qui sont riches, on comprend une réalité, cette réalité que vous avez très certainement compris pour vos vies, c'est que pour passer de la vie à la multiplication, on est obligé quand même de mourir à nous-mêmes. C'est que pour expérimenter la vie de Christ, pour lui laisser toute la place en nous, il faut que nous, on puisse s'effacer. Et pour expérimenter la multiplication, il y a un seul chemin, et ce chemin, c'est la mort à soi, afin que la puissance de Jésus-Christ se manifeste. Et dans ce texte, qu'est-ce que c'est la multiplication ? Mais Dieu le dit. Pour vous, que vous puissiez grandir en nombre, pour le troupeau, pour tout ce que vous allez avoir, pour les denrées alimentaires, vous allez connaître une abondance extraordinaire. Vous allez vivre des temps tellement bénis, mais pour nous, frères et sœurs, c'est porter du fruit. La traduction, c'est littéralement, c'est être ou devenir grand, s'accroître, s'élargir, grandir, augmenter. On comprend qu'il y a quand même dans notre vie le plan de Dieu que nous puissions expérimenter pour progresser avec lui, pour recevoir ce qu'il a à nous donner, mais pas seulement pour nous, pour les autres, puisque la multiplication nous parle aussi de ce qu'on peut donner aux autres. Et il y a un texte, et je pense que la plupart d'entre vous, vous y avez pensé lorsque j'ai parlé de cela, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 12, et on peut le lire ensemble, c'est un texte que on connaît, et c'est la continuité de cet enseignement de Dieu. Il y a une seule pensée, une unité parfaite dans le livre de Dieu. Jean chapitre 12, le verset 24, il nous est dit, Dieu manifeste sa vie, mais Dieu veut manifester la multiplication. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous savez, le peuple d'Israël avait connu beaucoup de difficultés. Et je ne sais pas si ça vous a déjà surpris, la manière dont Dieu s'adresse par Moïse au peuple. Parce qu'il est en train de dire, voilà, il y a ma parole, vous allez l'observer, la mettre en pratique. Mais souvenez-vous. Souvenez-vous de l'humiliation. Souvenez-vous des épreuves. Souvenez-vous de la souffrance. Souvenez-vous que vous avez manqué de faim, manqué de nourriture, que vous avez souffert de la faim. Souvenez-vous de ces choses. On ne comprend pas. On se dit, Seigneur, tu nous parles de vie. Seigneur, la vie, après la vie, tu nous demandes de nous multiplier. On comprend qu'il y a une approbation de Dieu. Et Seigneur, tu nous demandes de nous souvenir de ce qui a été difficile. Tu nous demandes de nous souvenir de ce parcours douloureux, 40 années dans le désert, 40 années à marcher, ça a été compliqué. Et Jésus-Christ, qui est là, ses disciples sont là, est en train d'exprimer la même pensée, frères et sœurs. Nous, on a dans notre vision toujours la bénédiction, toujours les promesses de Dieu, toujours ce que Dieu peut faire. Seigneur, merci parce que tu vas me donner ceci ou cela. Seigneur, oui, je regarde ce qu'il va y avoir, ça va être merveilleux, ça va être formidable, ça va être extraordinaire. Et le Seigneur, lui, nous encourage, nous enseigne que la réelle bénédiction, que de comprendre que la bénédiction qui pourra apporter du fruit en abondance, ça sera cette seule chose dans notre existence, c'est la mort. C'est de comprendre que Christ doit être le premier. Parce que ce texte de Jean chapitre 12 exprime la même pensée. Et si vous êtes aussi fort que moi en mathématiques, vous pourrez comprendre que si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. La multiplication par un, ça ne va jamais bien loin. Et pourtant, on essaye. Pourtant, on veut faire. Seigneur, la vie, je l'ai. Alors maintenant, je veux faire pour toi. Et combien de chrétiens sont frustrés ? On fait, on essaye, on va ici, on va là-bas. Seigneur, je fais pour toi, je multiplie les œuvres pour toi, mais il n'y a pas la vie. Seigneur, pourtant, j'ai fait cette expérience avec toi. J'ai expérimenté le salut, j'ai expérimenté la repentance, ma conversion est véritable. Seigneur, la suite logique, c'est cela. Mais souvenez-vous, dira le Seigneur, souvenez-vous de la souffrance. Souvenez-vous que ça n'a pas été facile, cette nourriture que vous ne connaissez pas. Le peuple a vécu des choses inconnues. Ça vous arrive jamais de vivre des choses que vous ne connaissiez pas, des situations qui arrivent dans la vie auxquelles vous n'y étiez pas préparé. Des situations qui dépassent notre intelligence, nos capacités. Ça ne vous arrive jamais de vous préparer, d'obéir même à tout ce que le Seigneur vous dit, d'être au cœur de sa volonté et de voir sortir des situations auxquelles vous n'y avez même pas pensé. Et ce que le Seigneur est en train de dire, ce que le Seigneur voulait rappeler à son peuple, ce que le Seigneur veut nous rappeler ce matin, parce que quand même, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a toujours cette bénédiction dans la multiplication que le Seigneur veut nous donner. C'est que ces souffrances contribuent à notre mort. Les temps difficiles, les temps passés, notre incompréhension contribuent à ce que on regarde sans cesse à Jésus-Christ et non pas à nous. Qui dans le désert peut trouver de l'eau ? Qui dans le désert peut trouver de la nourriture ? Qui dans le désert peut préserver ses habits, ses souliers ? Qui peut faire ces choses aujourd'hui ? Dans ce monde, qui aujourd'hui peut nous aider à traverser la maladie sans tomber dans la dépression ? Qui aujourd'hui peut préserver un couple de l'adultère, si ce n'est la parole de Dieu, si ce n'est la mise en pratique de la parole de Dieu ? Qui aujourd'hui peut prier pour ses enfants et ne pas s'inquiéter du chemin qu'ils prennent parce qu'ils ont compris que ce n'était pas nous, la force, la puissance n'est pas en nous mais en Christ. Qui aujourd'hui va prendre le risque de tomber en terre mais de ne pas accepter ses souffrances pour rester seul ? 10 œuvres multipliées par 1, ça fera toujours 10. Tout ce que je peux faire multiplié par un, ça fera toujours le nombre. Et le Seigneur nous dit, mais ne soyez pas frustrés, ne soyez pas aigris par ce qui arrive. Comprenez quelle est la volonté de Dieu, comprenez quel est le plan, la vision de Dieu pour chacun d'entre nous. Souvenez-vous que toutes ces choses ont contribué à votre formation spirituelle, à votre maturité spirituelle. Parce que la Bible nous parle de multiplication. Pierre pourra nous dire, mais que la grâce et la paix vous soient multipliées. Jude, que la miséricorde et la paix et la charité vous soient multipliées. Et ça, frères et sœurs, c'est ce que nous devons avoir dans notre vie. Des paroles de grâce, des paroles de paix, lorsque nous sommes dans des temps difficiles. Et je pense que vous connaissez ces temps. Vous savez de quoi je veux parler. Lorsqu'il y a des situations inconfortables, est-ce que la grâce et la paix se multiplient dans notre vie? Ou alors, et si vous avez l'occasion de prendre une concordance et de regarder toutes les fois où il est parlé, écrit de multiplication, les chrétiens ont le choix de voir multiplier la grâce et la paix ou de voir autre chose se multiplier. Est-ce qu'on multiplie notre incrédulité? Est-ce que la vie de Christ nous amène à multiplier l'amertume? Est-ce que ce que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix nous amène à multiplier notre haine, notre colère face aux événements, face aux choses de la vie? Dieu pourra dire à de nombreuses reprises à son peuple, « Mais vous multipliez vos révoltes, vous avez multiplié les meurtres, et vous savez ce que Jacques dit au sujet de la langue. Tu as multiplié tes prostitutions, tu as multiplié le mensonge et la violence. Et cela, c'est les fruits de tous les chrétiens, les chrétiennes, les enfants de Dieu qui ne comprennent pas le chemin que le Seigneur a prévu pour ses enfants. » On l'a chanté, il me semble, « Jésus s'est humilié ». On l'a chanté, il me semble, « Les souffrances de Christ ». On l'a chanté ce qui était pour nous dans notre cœur, cette proclamation de foi. Oui, je marche vers ma patrie. Mais le Seigneur, lui, lorsqu'il est venu, ça n'a pas été ce chemin extraordinaire. Et le danger, c'est qu'aujourd'hui, nous qui sommes les disciples du Seigneur, nous souhaitons vivre une vie différente de celle de Jésus-Christ. Une vie autre que la vie que Jésus-Christ a menée. Une vie où on veut juste le bonheur, et Dieu nous le donne. Une vie où on semble être comme enfermé dans un cocon. Mais le Seigneur a plus pour nous, frères et sœurs. Parce que la véritable joie, frères et sœurs, le bonheur extrême que nous pouvons vivre ici-bas, c'est de connaître davantage Jésus-Christ. La chair ne pourra jamais nous amener sur le bonheur que l'Esprit peut nous amener à vivre. On pourra essayer par beaucoup de choses. On pourra vouloir beaucoup de choses. On peut vouloir posséder le pays. Mais si on n'a pas vécu, si on n'a pas connu Jésus-Christ, à quoi cela va nous servir? On va l'oublier. Si on n'a pas expérimenté Jésus-Christ, lorsque ça allait mal, qu'est-ce qui va en être lorsque nous serons dans l'abondance? Est-ce que le peuple de Dieu va ressembler à tellement d'autres dénominations? Quoique aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire être ADD. Il n'y a plus de dénomination aujourd'hui. Mais est-ce que nous allons ressembler à tellement de chrétiens qui ont abandonné la route en cours de chemin parce que c'était trop difficile et qu'on n'a pas compris? Alors que, je le répète, le projet de Dieu, c'est toujours qu'on rentre dans ce pays promis. Le projet de Dieu n'a pas été avorté, n'a jamais été abandonné. Ce que Dieu veut manifester, c'est ces mêmes choses qui se retrouvent dans le Nouveau Testament. C'est exactement cette même pensée, ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Dieu n'a jamais changé d'avis à propos de son peuple. Le projet, ça a toujours été, mais je veux manifester la vie pour que vous portiez du fruit, afin de recevoir, de posséder, et je terminerai par ce point, afin de rentrer dans la victoire. On a peut-être oublié qu'on avait un Dieu victorieux. On a peut-être oublié qu'on avait un Dieu tout-puissant. On avait peut-être oublié que c'était ça le projet de Dieu. Le projet de Dieu, ce n'est pas seulement nous faire sortir d'Égypte. Ça aurait été bien. On pourrait même rien dire si ça avait été cela. Mais vous êtes d'accord avec moi que le projet de Dieu, c'est toujours pour prendre en possession le pays promis. Obtenir, on pourrait dire cela, obtenir la réalisation des promesses. Est-ce que vous avez des promesses de Dieu, frères et sœurs? Est-ce que Dieu vous a fait des promesses sur vos enfants, sur votre couple, sur l'avenir? sur ce qui va se passer, sur sa protection qu'il veut donner, sur son amour qu'il veut renouveler chaque matin. Est-ce que Dieu nous a fait des promesses, frères et sœurs, concernant notre vie personnelle, pour les jeunes, pour les moins jeunes ? Moi, je crois que Dieu continue à faire des promesses. Moi, je crois que Dieu continue à traiter avec nous cette alliance de bénédiction. Je crois que Dieu continue à vouloir nous amener à posséder le pays. Et c'est quelque chose que nous retrouvons également dans toute la parole de Dieu. Le psaume 37 nous dit « Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais ». Frères et sœurs, on ne sait pas ce qu'on va vivre, mais on connaît Dieu. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. Cette liberté que nous avons aujourd'hui, qui peut savoir combien de temps encore nous allons l'avoir ? Mais ce que l'on sait, c'est que Jésus-Christ est fidèle. Ce qui s'est passé durant cette année, les difficultés, aujourd'hui, peut-être qu'on regarde cela avec tristesse, mais Dieu sait que le jour où on sera dans l'abondance, dans la bénédiction, ça sera important pour nous de nous souvenir de cela, de nous souvenir de notre marche, parce que Dieu poursuit toujours sa formation pour nous. Et le but de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas qu'on soit des super-héros chrétiens. Le but de Dieu, c'est qu'on soit semblable à l'image de son Fils. Le but de Dieu, c'est qu'on soit des petits Christ, des chrétiens qui glorifient son nom. Je terminerai avec cette pensée rapidement pour vous dire, le répéter peut-être, que la volonté de Dieu, ça sera toujours que nous possédions le pays. Pour les sœurs qui ont un mari inconverti, je pense qu'on pourrait dire que c'est la volonté de Dieu qu'elles gagnent leur mari. Pour nos frères qui ont une épouse inconvertie, il en est de même. Pour les couples, pour les familles, vous avez compris l'image. Mais Jacques nous enseigne quand même. Parce que Jacques va nous dire, mais attention, attention frères et sœurs, je le dis, attention, parce que vous convoitez et vous ne possédez pas. Seigneur, on ne comprend plus, parce que tu nous parles de vie, tu nous parles du fruit qui doit abonder en nous, et c'est ta volonté. Tu nous parles que ta volonté aussi, c'est que nous puissions rentrer dans les promesses, dans cet héritage. Et la parole de Dieu nous dit, oui, mais faites attention, parce que si vous avez voulu court-circuiter le circuit de Dieu, si vous avez voulu passer par un pont ou un tunnel, ce que vous voulez, pour atteindre directement, pour posséder, il y aura toujours un problème. Vous convoitez et vous ne possédez pas, parce que c'est pour satisfaire les convoitises. Et la vie chrétienne n'est pas question de convoitise, de ce que notre chair voudrait que nous puissions avoir. La vie chrétienne, c'est une vie spirituelle où nous comprenons ce que Dieu veut nous donner pour sa gloire, et pour bénir notre foyer et là où il nous a placés. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Je ne sais pas si ça vous a déjà surpris, ce texte. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Parce que si la parole de Dieu n'a pas pu faire son effet en vous, frères et sœurs, si on n'a pas été marqué par la croix, si on n'a pas été marqué par le sacrifice de Jésus-Christ, si on n'a pas été marqué par ce que le Seigneur Jésus veut et a fait dans notre vie, on va se tromper de combat, on va se tromper de cible, on va se tromper et on va mal demander. Et je le répète parce que c'est quand même ce que Dieu dit, la volonté de Dieu, ce n'est pas que toute notre vie chrétienne soit résumée par ces versets où Jacques a écrit « Vous convoitez ». Et vous ne possédez pas, vous possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ce n'est pas possible que ça soit la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions vivre. Les justes posséderont le pays. Les justes rentrent dans l'héritage de Dieu. Les justes expérimentent la grâce de Dieu. Les justes comprennent le chemin que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous. Les justes comprennent la souffrance. Les justes comprennent les épreuves, les justes comprennent la difficulté et les justes arrivent malgré tout à rentrer dans la possession de l'héritage. Je terminerai juste en revenant dans Deutéronome au chapitre 8, et on va lire ensemble quelques versets. On va lire le verset 13 et 14, Deutéronome au chapitre 8, et le verset 13, il est écrit: lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Le verset 17 nous dira: garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquise ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à ses pères. Sans prendre trop de temps, les justes, vous savez, c'est ceux qui ont compris que tout vient de Dieu. C'est ceux qui ont compris que rien n'est en nous. Mais c'est Dieu qui nous donne la force. C'est Dieu qui nous permet de réaliser ces choses. C'est Dieu qui nous permet de rentrer dans le pays promis. C'est Dieu qui nous permet de voir la réalisation, de voir nos enfants se convertir, de voir les ados prendre le baptême et les moins jeunes prendre le baptême, de voir des couples chrétiens tenir, de voir des jeunes hommes, des jeunes filles dans l'église attendre la bonne personne, attendre un mari chrétien, une épouse chrétienne, parce qu'ils savent que c'est là la volonté de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Tout vient de la croix, du sacrifice de Jésus-Christ. Et les justes, ceux qui vivent la multiplication, ceux qui rentrent dans le pays promis, c'est ceux qui ont compris ces choses, que tout est bien dans la vie. Que tout est bien à partir du moment où on comprend que Dieu reste souverain, que c'est Dieu qui permet les choses pour notre formation, pour notre bienfait, pour notre bénédiction, pour notre perfectionnement, pour que nous puissions être à l'image de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons écouter ce que tu dis, vivre cette multiplication, rentrer dans la possession du pays, parce que c'est là ta volonté. Seigneur, nous ne voulons pas nous aigrir face aux épreuves de la vie, face aux difficultés, face à l'incompréhension. Nous ne voulons pas avoir le cœur rempli d'amertume parce que nous avons été blessés, parce que nous n'avons pas compris. Mais Seigneur, nous voulons te faire confiance. Oh oui, Seigneur, nous avons tellement besoin de tomber en terre, de mourir pour porter ce fruit, pour voir ta gloire se manifester dans notre foyer, dans notre travail, dans nos familles. Tu vois ici combien témoignent dans les familles, combien les familles restent hostiles. Nous croyons que c'est ta volonté que nous puissions, au travers de toi, toucher leur vie, leur cœur, que nous puissions rentrer dans cet héritage et amener notre famille avec nous. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour cette église, bénis-la, fortifie-la, conduis toutes choses, mon Dieu, et que tu puisses manifester, continuer à manifester ta gloire et ta bienveillance, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen.